Bonjour à tous, mardi 3 avril 2018, nous y voilà, le mois d'avril est arrivé, les beaux jours aussi, même si nous aurons droit encore à quelques petits flocons je crois cette semaine, mais quand même le soleil s'installe et le vent frais aussi, le printemps arrive, n'est-ce pas Jean-Charles Algan?
Absolument.
Qui est avec moi dans le studio, comment allez-vous?
Bonjour, merci, ça va bien, et vous-même?
Mais très bien, comme toujours, quels sont les sujets que nous allons parcourir aujourd'hui?
Alors j'hésitais à aller vers En voyage lecteur à l'aventure, un petit récit sur le Maroc, sur les maisons troglodytes. Ensuite, une petite révolution alimentaire dans les écoles du Nouveau-Brunswick. Et je vais aussi parler d'une autre province, le marché immobilier à Toronto qui bat de l'aile.
Très bien, nous allons dans toutes les directions. Pour ma part, nous parlerons d'une soucoupe volante, à vendre. Pas facile à dire et pas n'importe laquelle soucoupe, vous allez voir. Je vous reparlerai également de ce paraplégique dont je vous parlais la semaine dernière. A-t-il atteint ou non le camp de base de l'Everest? Je vous en parle. Également, si vous le voulez bien, de l'opéra pour bébé ou le musée des égoportraits. Tout ceci arrive dans quelques instants dans les voies de service.
Alors, les lecteurs à l'aventure au royaume des troglodytes, un récit de Michael Berger. L'univers du troglodytisme, le fait de vivre dans les excavations souterraines naturelles ou artificielles, est présent sur tous les continents, et ce, depuis que l'humanité existe. Bien sûr, nos ancêtres, les Néandertaliens et les Cro-Magnons, ont trouvé refuge à l'entrée des grottes pour se protéger et se mettre à l'abri. Mais sachez qu'il existe des millions d'humains qui vivent encore en troglo, diminutif utilisé pour nommer les habitations troglodytiques. Au XXIe siècle, un univers très peu connu au Québec, constitué de beaucoup de vestiges, mais aussi d'un riche patrimoine, parfois rénové et habité dans plusieurs pays, composé de villages, d'habitations, de lieux de culte, de fermes, de cimetières, de châteaux, de forteresses, de lieux d'hébergement, de restaurants, etc. Sans compter toutes les nouvelles constructions contemporaines conçues pour se nicher sous terre, pour ses avantages écologiques qui font aussi partie de l'espace troglodytique. Mon parcours troglodytique débuta en France en juin 1984, lorsque j'ai été initié à séjourner dans ce type d'habitation avec ma famille dans la région de Saumur et à vivre pleinement comme un troglodyte, celui qui habite le troglo. Dès que je suis entré à la fosse, dans cette ferme de 32 pièces entièrement creusées dans le tuffeau, c'est la pierre tendre faite d'anciens fonds marins au XIXe siècle, ce fut le coup de foudre qui a grandi avec les années pour devenir cette passion personnelle qui m'a mené à explorer en profondeur ce vaste monde souterrain dans différents pays. Ainsi, cet univers fabuleux nous permet de découvrir l'architecture organique, l'histoire de différents peuples et leur culture, l'histoire de l'art, l'archéologie, la géologie, l'art de vivre en troglo, le mode de vie du troglodyte, etc. Durant mes multiples parcours, je pars à la recherche de sites troglodytiques en voiture, parfois en vélo ou en bateau, et très souvent à pied, situés en montagne, sur les bords des cours d'eau, dans les falaises de mer, en plaine, dans le désert ou encore sous les villes. Après avoir ciblé une région troglodytique, je planifie un itinéraire pour y résider plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour découvrir au maximum ces lieux en visitant des sites abandonnés ou encore habités, en fréquentant hébergements et restaurants en troglo, et surtout en rencontrant le troglodyte pour reconnaître et pour vivre au cœur même de ces lieux incroyables. Un dicton troglodytique dit « Pour vivre heureux, vivre caché ». Mais la porte de sa maison est toujours grande ouverte. Le type troglodyte est convivial et réputé en France pour aimer la fête. Après une douzaine de voyages sur ce même thème en Espagne, en Italie, en Grèce, en Tunisie et surtout en France, où il existe la plus forte concentration en Europe, je garde de magnifiques souvenirs de ces maisons bien intégrées à leurs souvenirs et de ceux qui l'habitent. Alors, il a choisi de raconter quelques régions troglodytiques qu'il racontera lors de prochains récits.
Une soucoupe volante à vendre sur Kijiji. Oui, c'est possible de trouver ce genre d'article sur le fameux site, mais pas n'importe laquelle soucoupe volante, il s'agit de celle de Raël. Après avoir acheté en 2016 l'ancien site de Ufoland, le Disneyland du mouvement raélien installé à Maricourt et laissé à l'abandon durant plusieurs années, les propriétaires du camping Havana Resort ont décidé de faire table rase du matériel des disciples du gourou Claude Vorillon, qu'ils ont mis en vente sur le site Kijiji. C'est qu'en achetant le terrain, Véronique Allary avait hérité de la soucoupe volante d'une largeur de 25 pieds et de plusieurs autres articles, notamment les panneaux d'interprétation laminés racontant l'histoire du mouvement raélien, une chaîne d'ADN UFO rotative, la maquette originale de 2 pieds par 3 pieds de l'ambassade UFO présentée au Premier ministre du Canada et des feuillets sur les croyances raéliennes. Les lieux appartenaient autrefois à l'homme d'affaires Réal Brochu qui s'en était porté acquéreur quand les leaders du mouvement raélien avaient décidé de quitter le Québec. Le terrain avait auparavant été laissé à l'abandon pendant une dizaine d'années. Nous avions gardé tout cela car nous n'avions pas besoin de l'espace, mais maintenant l'endroit va devenir l'accueil du camping et du condo-hôtel, indique Madame Allary au Soleil. Celle-ci avoue que son établissement avait déjà utilisé la fameuse soucoupe volante pour une fête d'Halloween au camping. Nous avions pensé en faire une arcade ou une discothèque, mais finalement on s'est dit que ce serait plaisant si un passionné d'extraterrestres s'en portait acquéreur. Véronique Allary ne sait pas encore le prix qu'elle demandera pour tout le matériel, indiquant qu'au moins 8 personnes l'avaient contacté à ce sujet depuis la publication de l'annonce sur Kijiji et depuis que l'humoriste Jean-René Dufort en a parlé à son émission Infoman. Tout dépendant du prix qu'on obtient, on pourrait peut-être faire un don d'une partie de l'argent à un organisme sans but lucratif de la région, poursuit-elle. Le camping Havana Resort lancera bientôt sa troisième saison touristique. Le mouvement raélien est né en France en 1974 à l'initiative de l'ex-journaliste et coureur automobile Claude Vorillon, qui se fait appeler Raël par ses fidèles et prétend que les êtres humains ont été créés en laboratoire par des extraterrestres appelés Elohim. L'Hexagone considère maintenant l'organisation comme une secte et le Québec était vite devenu sa terre d'accueil. Toutefois, les Raéliens ont décidé de quitter la province peu après le passage fort médiatisé du gourou à l'émission Tout le monde en parle en 2004, lors duquel le caricaturiste Serge Chapleau s'était moqué de Vorillon. Depuis, le mouvement s'est installé à Las Vegas pour ensuite déménager à nouveau vers Tokyo et finalement pour s'établir sur l'île d'Okinawa, toujours au Japon, peu après le désastre de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi le 11 mars 2011.
Je suis un homme de mauvaise foi. Ce que tu me racontes, je n'y crois plus. C'est comme toutes ces histoires de cul. Y a que toi pour inventer ça. Je suis un homme de mauvaise foi. Ni catholique, ni Jéhovah, ni psychédélique, ni granola. J'suis ordinaire comme ça se peut pas. J'ai pas envie d'être sérieux. J'ai pas envie de me mentir. J'ai pas envie de jouer le jeu. Perdre la face et repartir. Je suis un homme de mauvaise foi. Je conduis mon char, j'ai pas de permis. Je travaille trop fort pour mon whisky. Et pas de coûte cher à part de ça. J'ai pas envie d'être sérieux. J'ai pas envie de me mentir. J'ai pas envie de jouer le jeu. Perdre la face et repartir. Je mène ma vie comme je le peux. J'ai pas trop l'impression de vieillir. Je suis pas plus brillant, je suis pas plus niaiseux. Je sais bien qu'un jour je vais mourir. Je suis un homme de mauvaise foi. Faut-il que tu crois ce que je te dis? J'ai peur comme tous les autres aussi. De perdre l'ombre de ma croix.
De Raël, on passe à Fred Fortin, portrait d'un ovni.
Et on revient avec la révolution alimentaire dans les écoles du Nouveau-Brunswick. Un texte de Gilda Meneux de l'Épicerie. C'est une petite révolution alimentaire que vivent les milliers des milliers d'élèves du Nouveau-Brunswick. Produits locaux, cantines santé, produits d'entreprises scolaires. Les initiatives se multiplient pour améliorer les compétences culinaires des jeunes Acadiens. L'Épicerie est allée sur place à la recherche de la recette de ce succès. Les assiettes de 21 000 élèves du district scolaire francophone sud de Nouveau-Brunswick sont désormais composées à plus de 45% d'aliments locaux. Tout cela grâce à la détermination d'une enseignante et mère de famille, Rachel Schofield-Martin, qui s'est donnée comme mission d'offrir une alimentation saine et de qualité aux enfants. Si autrefois on servait des aliments transformés aux enfants, maintenant, les plats sont préparés sur place. Pour en arriver à ce changement, Rachel Schofield-Martin a dû convaincre les administrateurs scolaires de ne pas renouveler le contrat avec le fournisseur habituel des cafétérias. Pour le même prix, le district offre maintenant une qualité supérieure de nourriture en collaboration avec des agriculteurs et des entrepreneurs locaux. J'ai développé un concept de cafétéria entrepreneuriale basé sur quatre piliers, l'entrepreneuriat, l'éducation, la santé et le développement durable, dit Rachel Schofield-Martin, qui est donc coordonnatrice en saine alimentation et en entrepreneuriat social. Le projet pilote a commencé en 2009 à l'école Blanche-Bourgeois de Cocagne avec 2 employés et 170 élèves. Le réseau des cafétérias communautaires offre maintenant ses services alimentaires dans 24 des 37 écoles du district scolaire francophone sud au Nouveau-Brunswick. Il emploie 75 personnes, une trentaine d'entreprises font affaire avec l'organisme. Ce projet n'aurait pas vu le jour sans le soutien indéfectible des responsables du district francophone sud. La commission scolaire a cru au projet. « On croit vraiment dans un leadership partagé », explique la directrice générale du district, Monique Boudreau. « On donne beaucoup de pouvoir aux écoles. Rachel Schofield-Martin pense toujours à l'apport pédagogique, à comment les élèves vont apprendre dans ces projets. » À l'école Blanche-Bourgeois de Cocagne, on a remplacé les plats congelés par des plats cuisinés sur place sans pour autant augmenter les coûts de production et le prix de vente. La cafétéria offre des soupes variées ou encore des pâtes et les élèves apprécient. Quand on a démarré le service alimentaire, on servait à peu près 20% des élèves. C'est maintenant à peu près 50% des jeunes qui profitent des services de la cafétéria, constate Rachel Chauffil-Martin. Elle est allée à la rencontre des producteurs locaux pour tisser des liens commerciaux et l'a notamment cognée à la porte de Léopold Bourgeois, dont le verger est à quelques minutes de l'école. C'est intéressant parce que ça crée des futurs consommateurs. Ils rapportent des pommes à la maison, ils encouragent les parents à venir acheter nos pommes, dit Léopold Bourgeois, le propriétaire de La Fleur du Pommier. Les pommes de M. Bourgeois sont aussi transformées par les élèves de l'école Anna Malenfant de Dieppe, qui en font des rouleaux fruités, vendus à leurs camarades. La préparation se fait dans le cadre de leur cours de mathématiques. Leur enseignante, Caroline Picard-Leblanc, en profite de ce projet pour améliorer leurs compétences en mathématiques. Les profits ainsi récoltés permettent l'achat de logiciels utilisés par les élèves. À l'école Carrefour de l'Acadie de Dieppe, les jeunes ont créé une petite entreprise AcadiSub. Les élèves embauchent leur personnel, vendent des sous-marins et utilisent les profits pour créer des bandeaux ou des chandails personnalisés. À l'école Abel Landry de Memramcook, les élèves s'investissent dans la préparation de smoothies. Ils apprennent aussi des rudiments du jardinage. 70% des écoles font pousser fruits et légumes, parfois même en serre. Rachel Chauffil-Martin n'a pas fini de créer de nouveaux projets. Elle veut maintenant offrir des cours de cuisine intégrés au programme scolaire. C'est une réussite communautaire, explique-t-elle. Ce qu'on vit là, c'est grâce aux enseignants, aux employés des cafétérias, à différents partenaires de district et du ministère. On récolte le fruit de chacun de nos petits efforts. Le Canada est l'un des rares pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, dépourvu d'une politique nationale d'alimentation dans les écoles. Ottawa devrait pallier ce manque en présentant sa politique alimentaire pour le Canada au cours de l'année 2018.
Les plus assidus de nos auditeurs s'en souviendront peut-être, je parlais la semaine dernière d'un article et d'un monsieur paraplégique qui allait entreprendre ou était en train d'entreprendre la montée vers le camp de base de l'Everest. L'a-t-il fait ou non? Eh bien, je vous en parle tout de suite. Scott Doolan, 28 ans, paraplégique, a atteint dimanche le versant sud de la plus haute montagne du monde, côté népalais, à 5364 mètres d'altitude, un endroit qui n'est généralement accessible qu'à pied ou en hélicoptère. Il lui a fallu 10 jours pour y arriver, se déplaçant sur un terrain rocheux en fauteuil roulant, conçu pour le périple, lorsque cela était possible, et sur ses mains ou porté par l'équipe qui l'accompagne. Je peinais à respirer car je marchais sur mes mains, mais je me souviens simplement avoir regardé vers le haut, où une vingtaine de personnes m'attendaient. Une fois que je suis arrivé, elles ont toutes commencé à m'applaudir, a déclaré Scott Doolan, qui s'est dit honoré d'être le premier paraplégique à parvenir à cette altitude. Quand il marchait sur ses mains, il portait 5 paires de gants. Au 7e jour, l'une des roues avant de son fauteuil roulant s'est cassée. J'étais assez effondré, je me suis simplement retrouvé seul sur un rocher en me demandant comment j'allais faire, a raconté l'Australien à l'AFP, une fois arrivé à Katmandou. Scott Doolan, en fauteuil roulant depuis l'âge de 17 ans à la suite d'une fracture de la colonne vertébrale due à un accident de moto. Pour se préparer à cet exploit, l'Australien a pratiqué des exercices cardiovasculaires et musculaires pendant 8 mois pour renforcer le haut de son corps. Puis il s'est rendu sur les sentiers des montagnes bleues australiennes où il a porté, avec un masque limitant l'apport d'oxygène, afin de se rapprocher le plus possible des conditions extrêmes de l'Himalaya. Depuis le camp de base de l'Everest, Doolan a été ramené en hélicoptère jusqu'à Katmandou, où il a été hospitalisé. Une radiographie en effet révélé une petite fracture du coccyx, contractée lors de l'ascension, mais qui devrait se rétablir complètement. Le paraplégique réfléchit maintenant déjà à sa prochaine aventure. Il voudrait nager, par exemple, sous les couleurs de l'Australie aux Jeux paralympiques de Tokyo de 2020.
« Le marché immobilier torontois bat de l'aile. Yvon Laprade en collaboration spéciale à la presse. Le marché tourne au ralenti à Toronto depuis le début de l'année avec des baisses marquées de prix des propriétés et du nombre de transactions. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En février 2018, dans le Grand Toronto, le prix moyen de revente d'une propriété a reculé de 110 000 $ en baisse de 12,4% pour s'établir à 760 818 $, rapporte le Toronto Star. Au cours de la même période, le nombre de transactions a diminué de 35% pour se situer à 5175 selon les dernières données de Toronto Real Estate Board. À son sommet, au cours de l'hiver 2017, le prix moyen d'une propriété dans la région métropolitaine de la ville Rennes s'élevait à 920 791 $. À vrai dire, le marché torontois n'est pas le seul à avoir connu un début d'année anémique, révèle l'Association canadienne de l'immeuble. Au pays, les ventes résidentielles ont connu une baisse moyenne de 6,5%, tandis que le prix moyen des propriétés a diminué de 5%. Le nombre de nouvelles inscriptions a augmenté de 8,1%, ce qui a fait grossir le nombre de propriétés sur le marché. Fait à souligner, le marché de Vancouver n'a pas été épargné en début d'année. On y a observé une baisse de 9% du nombre de transactions en février 2018 et une hausse de 15,2% des inscriptions. Toutefois, les prix y demeurent costauds. Une maison unifamiliale se vend au prix moyen de 1,6 million et un condo de 682 800 $. Pour expliquer cette baisse de régime, les experts du marché montrent du doigt les mesures contraignantes à l'égard des investisseurs étrangers, frappés d'une taxe supplémentaire de 15%. Tout récemment, à Vancouver, une nouvelle mesure a été mise en place pour rendre encore plus difficile l'acquisition de propriétés à des fins spéculatives. Pour l'instant, à tout le moins, le marché montréalais ne semble pas souffrir de ces baisses à échelle nationale. « Ça va très bien », résume le courtier immobilier Joseph Montanaro chez Sotheby's International. Les acheteurs étrangers, on l'a vu, achètent de plus en plus à Montréal et ils considèrent à juste titre que le prix des propriétés est beaucoup moins élevé qu'à Toronto et à Vancouver. À Montréal, pour un acheteur local, les prix peuvent sembler assez hauts. Mais pour un acheteur qui vient de l'extérieur, c'est très abordable, indique Joseph Montanaro, courtier immobilier. Les acheteurs ne sont pas tous des étrangers qui débarquent avec une valise remplie de dollars, il va sans dire, mais le courtier Joseph Montanaro maintient que leur présence dans le marché montréalais est loin d'être négligeable. Ce sont des acheteurs qui s'installent à Montréal pour y vivre ou pour permettre à leurs enfants de fréquenter nos universités, rappelle-t-il. Ce n'est pas le même profil que des investisseurs qui achètent à Vancouver et à Toronto. Il ne faut pas penser que ces gens-là vont venir à Montréal à cause des taxes qui leur sont imposées par les gouvernements là-bas. Le courtier juge d'ailleurs que ces mesures sont pénalisantes pour l'ensemble du Canada. Ces acheteurs-investisseurs vont se tourner vers les États-Unis pour éviter les contraintes financières, prévoit-il. Pour sa part, le courtier Serge Bélanger, également chez Sotheby's, constate que les acheteurs qui viennent d'Asie et parfois même d'Arabie Saoudite sont attirés par le coût très abordable des propriétés ici. « Je vois des acheteurs de Toronto et de Vancouver s'établir à Montréal pour cette raison », souligne-t-il. Il observe que le centre-ville de Montréal, Mont-Royal, Outremont et Westmount demeurent les marchés préférés des étrangers. Mais il y a de plus en plus d'acheteurs étrangers qui s'installent à Brossard, qui demeure le secteur le plus actif sur la rive sud pour les propriétés de plus de 1 million de dollars, indique-t-il. Ainsi, l'an dernier, 19 maisons millionnaires ont été vendues dans cette municipalité qui s'est développée en accéléré autour du quartier d'East 30. En février, le prix moyen d'une maison unifamiliale dans la région de Montréal s'établissait à 378 000 $ en hausse de 6%. Un condo avait une valeur moyenne de 295 171 $ en progression de 8%. Dans l'île de Montréal, la valeur moyenne d'une unifamiliale se situait à 606 835 $ plus 7%. Un condo valait en moyenne 342 742 $ plus 7% également.
Partons à New York, et plus précisément parlons de musique. Désireux de renouveler son public, le Metropolitan Opera de New York va jouer, fin avril et début mai, un opéra pour bébés, tandis que des chercheurs observeront les réactions des jeunes spectateurs. Bambino est une création du compositeur écossais Liam Paterson, d'une durée d'environ 40 minutes, qui a déjà été joué l'an dernier au Festival de Manchester. Les 10 représentations gratuites de Bambino, qui auront lieu du 30 avril au 5 mai dans la salle annexe du Met, le List Hall, sont strictement réservées à des enfants de 6 à 18 mois, accompagnés d'un adulte. Seuls 2 chanteurs seront sur scène, accompagnés de 2 musiciens multi-instrumentistes. L'histoire de Bambino évoque la rencontre entre un oiseau et un poussin qui n'ont pas de lien familial. Dans la quête continue du Met pour construire les audiences du futur, nous avons décidé de démarrer du tout début, a commenté le directeur général du Met, Peter Gelb, cité dans un communiqué. Cela devrait être une expérience formatrice pour les jeunes enfants de New York, a-t-il ajouté. Le Met s'est associé à des chercheurs de l'université new-yorkaise de Columbia qui observeront les comportements des bébés durant le spectacle et leurs réactions.
Levée de l'alerte pour Playa del Carmen. Les voyageurs qui devaient se rendre prochainement sous le soleil de Playa del Carmen n'auront pas à renoncer à leur projet de voyage. Le gouvernement canadien a en effet retiré son avis, publié au début du mois, dans lequel il invitait les voyageurs qui devaient se rendre dans cette populaire station balnéaire mexicaine à faire preuve d'une grande prudence et à éviter de monter à bord des traversiers touristiques. Une explosion y est survenue le mois dernier, au mois de février. Ottawa continue toutefois de rappeler à ses concitoyens de demeurer vigilants. Club Med voit grand. La société française a annoncé plusieurs projets d'expansion dans les 5 années qui viennent. Outre le projet au massif de Charlevoix, Club Med prévoit ouvrir de nouvelles installations sur le site d'un ancien village à Céphalou, en Sicile. L'ouverture est prévue l'été prochain, ainsi qu'en Savoie, dans la province de Hebei, en Chine, et Ho Chi Minh Ville, Vietnam, à Lombok, Indonésie, au Sri Lanka et aux Seychelles.
Non. Nous revenons dans quelques instants, n'en ont pas le temps pour une autre brève, mais nous sommes de retour juste après la pause musicale. Restez avec nous, à tout de suite dans les voies de service.
Au même endroit.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant, que si tous appellassent, les amours aussi passent, il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Pas tant donner. sais pas jouer.
Sans doute reconnu la pièce « Pour que tu m'aimes encore » est un succès de Céline Dion, un succès de 1995, écrit et composé par Jean-Jacques Goldman. C'était repris ici par les Sœurs Boulay.
Plus terre à terre, agences de voyage, des fraudeurs se paient des forfaits tout inclus. Les agences de voyage sont la cible d'un nouveau type de fraude au Québec. Des achats de forfaits tout inclus à l'aide de cartes de crédit volées. En moins de deux semaines, de la fin janvier à la mi-février, Passion Voyage a vendu des forfaits tout inclus à trois clients qui les ont payés avec des cartes de crédit volées pour une fraude totale de plus de 13 000 $. Ce type de fraude est en croissance constante, constate l'Association des tours opérateurs du Québec, l'ATOC. Un voyage est un produit virtuel de haute valeur qui est souvent distribué par des agents de voyage qui n'ont pas mis en place de système sophistiqué de prévention de la fraude, dit l'ATOC dans un communiqué publié en mars dans le cadre du mois de la prévention de la fraude. Les fraudes par carte de crédit ont fait perdre 1 milliard de dollars aux entreprises canadiennes en 2016, selon les plus récentes données fournies par l'Association des banquiers canadiens. Selon Manon Martel, directrice générale de l'Association canadienne des agences de voyage, l'ACTA, pour le Québec, les fraudeurs contactent le plus souvent leurs victimes les soirs de week-end et demandent à acheter un billet d'avion pour un départ urgent. Dans ces cas-là, puisqu'ils répondent souvent à la maison, les conseillers en voyage n'ont pas accès au système de détection, système de détection qui leur permettrait de découvrir la fraude, dit Madame Martel. Lorsqu'un paiement par carte de crédit est refusé, le voyagiste ou le transporteur aérien envoie un avis à l'agence qui doit lui transmettre toute information pouvant aider à contester la transaction auprès de l'émetteur de la carte. Si la banque refuse d'assumer la fraude, en fin de compte, ce sont toujours les agences qui paient, dit Marie-Pierre Lanoux. Nous sommes très clairs là-dessus, dit Eric Johnston, dont l'association représente des voyagistes comme Transat, Club Med et Caribe et Sol. Les agences de voyage sont les seules dans toute la chaîne de distribution du voyage qui ont l'opportunité de voir le client. C'est leur responsabilité de s'assurer que la carte utilisée est valide, dit Eric Johnston. Les différents groupes qui représentent l'industrie du voyage au Canada, dont l'ACTA et la TOC, ont toutefois entrepris des démarches pour transférer cette responsabilité sur les épaules des institutions financières. Nous plaçons beaucoup d'espoir sur un nouveau système de vérification de paiement de cartes baptisé 3D Secure 2.0, qui sera mis en place au cours des trois prochaines années par les compagnies émettrices comme Visa et Mastercard, dit Eric Johnston. Ce système devrait aider à réduire la fréquence et la valeur des fraudes, puisqu'il permettra aux émetteurs de cartes de récolter jusqu'à 10 fois plus de données lors d'une transaction. Et donc, sur 510 milliards de dollars valeur des transactions par carte de crédit au Canada, 1 milliard de dollars a été le montant des fraudes par carte de crédit.
Et restons sur le sujet des fraudes dans le domaine du vin. C'est un article qui date d'il y a quelques années, je le reconnais, il y a 3-4 ans. Mais je ne résiste pas à l'envie de vous en parler, tant l'histoire est rocambolesque et fera peut-être un jour l'objet d'un film. Écoutez plutôt. Je vous parle d'un monsieur Rudy Kurniawan et ses faux grands crus, ses millions et sa chute. Considéré à un temps comme l'un des plus grands experts en vin, Rudy Kurniawan a été reconnu, il y a donc 3-4 ans, de fraude visant à vendre des vins contrefaits. Retour sur cette passionnante affaire. Tout d'abord, qui est Rudy Kurniawan ? Né en Indonésie, il a 37 ans et est arrivé aux États-Unis à la fin des années 1990, et plus précisément en Californie, où sont produits 90% des vins américains. C'est là que le jeune homme, alors âgé de 24 ans, fait la connaissance de Paul Wasserman, un amateur de grands crus, qui l'introduit auprès des producteurs locaux. Sans aucune connaissance œnologique, il parvient à se faire une place et à séduire les experts même les plus aguerris grâce à une mémoire gustative exceptionnelle et une rapidité à apprendre hors du commun. Pendant les dégustations en double aveugle, au cours desquelles il faut deviner l'appellation et le millésime, Rudy reconnaît à coup sûr les nectars les plus nobles comme le Romane Conti, le Gevrey Chambertin ou le Chambol Musigny, raconte Vanity Fair. Mais il se fait surtout remarquer par son fastueux train de vie. Entre 2006 et 2011, il dépense 16,32 millions de dollars sur une seule de ses cartes de crédit, en vins, vêtements, bijoux, voyages, etc. En costume Hermès et bottes en croco, l'Indonésien écume les salles de vente, toujours flanqué, relèvent les journalistes du Vanity Fair, d'un caniche blanc, prénommé Chloé. Le truc de Rudy, c'était « Je ne baisse pas les bras tant que je n'ai pas la bouteille », a confié au magazine le mentor du jeune homme, Paul Wasserman. Devenu un collectionneur de renom, il affirme être soutenu par une famille richissime en Indonésie. En réalité, Rudy Kurniawan, dont le véritable nom est Zeng Wang Huang, emprunte à des banques des millions de dollars, dont 3 millions n'ont jamais été remboursés, et réside illégalement aux États-Unis depuis le rejet d'une demande d'asile en 2003. Enfin, la majorité des vins qu'il collectionne en vue de les revendre sont des contrefaçons. Comment fabriquait-il ces contrefaçons ? Dans sa maison d'Arcadia, en Californie, a été retrouvé un véritable laboratoire de contrefaçons de vins. Avec vieilles bouteilles, étiquettes, bouchons, cols, capsules, Rudy Kurniawan mélangeait des vins moins chers pour fabriquer ses grands crus. Il versait ensuite ses créations dans des bouteilles vides anciennes, envoyées d'un restaurant new-yorkais où il organisait de somptueuses dégustations pour les experts et collectionneurs. « Ne les lavez pas, j'ai besoin qu'elles semblent d'époque pour une séance de photos », écrivait-il par courriel. Au total, près de 19 000 étiquettes, représentant 27 des meilleurs vins au monde, ont été retrouvées chez lui, dont 40 étiquettes de Romane Conti 1945, une année tellement rare qu'il n'en existe plus. L'Asiatique travaillait à partir d'une étiquette authentique, changeait l'année, parfois d'un seul chiffre, ajoutait un tampon, un numéro de série, et imprimait le tout en haute résolution avant de les vieillir artificiellement. Comment donc a-t-il été démasqué ? En avril 2008, Rudy Carniwan tente de vendre aux enchères à New York un lot de 97 bouteilles de Bourgogne du domaine Ponceau, estimé entre 440 000 et 602 000 dollars, pour la plupart fausses. L'une des bouteilles est datée de 1929, alors que le domaine n'a commencé la mise en bouteille qu'en 1934. Informé par un œnophile qui a des doutes, Laurent Ponceau se rend à New York et demande le retrait de ses vins. La vente est suspendue à la dernière minute. Le producteur français rencontre Rudy Carniwan pour connaître l'origine de ses vins, et ce dernier lui fournit un nom, Pak Hendra, et deux numéros de téléphone. Pak Hendra s'avère l'équivalent indonésien de notre très commun Monsieur Dupont, tandis que les deux numéros sont liés à une compagnie aérienne et à un centre commercial à Jakarta. Laurent Ponceau comprend que le collectionneur, entre guillemets, se moque de lui. Contacté en 2010 par le FBI, il participe activement à l'enquête sur Carniwan et permet le 8 mars 2012 son arrestation. Comment sa fraude a-t-elle pu tenir pendant 6 ans ? Durant son procès qui a débuté à New York le 9 décembre, c'était en 2013, la question de complicités éventuelles s'est évidemment posée. Pour Laurent Ponceau, le faussaire n'a pas pu agir seul. Sans donner de nom, il assure que Carniwan a bénéficié de l'aide de deux complices. La bonne foi des maisons d'enchères est contestée. Qui a fait de l'argent avec ça ? A ainsi déclaré à l'AFP Maureen Downey, une experte en vin qui depuis des années avait de sérieux doutes sur les vins proposés par Carniwan. Il avait selon elle des relations privilégiées avec la maison d'enchères new-yorkaise Acker, Merrill & Condit, devenue numéro 1 grâce aux vins qu'il lui procurait. Venu témoigner au procès, Aubert de Villene, co-gérant du domaine de la Romanée Conti, a dit espérer une vraie condamnation de la contrefaçon. Celle de Carniwan était déjà sophistiquée, mais depuis 2 ans en Europe, il y en a qui sont encore plus sophistiqués, a-t-il confié. On se devait d'intervenir, a estimé un autre témoin, Laurent Roumier, du domaine du même nom. Ce cas-là n'est pas unique. Tous deux regrettent la spéculation, insistent sur le fait que le bon vin était fait pour être bu. Michael Egan, expert en vin depuis plus de 30 ans, dont 24 pour la maison d'enchères Sotheby's à Londres, a expliqué lors de l'audience qu'entre 2002 et 2007, les années où Rudy Carniwan a connu son ascension fulgurante, vendant pour des millions de dollars de vin, certains authentiques, certains contrefaits, le marché des grands vins anciens a énormément augmenté, passant de 90 millions de dollars par an à plus de 300 millions de dollars. Le spécialiste a aussi indiqué avoir étudié 1433 vins contrefaits achetés par 7 de ses clients depuis 2006. Reconnu coupable le mercredi 18 décembre 2013 de fraude visant à vendre des vins contrefaits et de fraude électronique visant à escroquer une institution financière, Carniwan, resté impassible durant tout le procès, risque jusqu'à 40 ans de prison et une amende. Sa peine sera prononcée à une date ultérieure. Ce dernier, amaigri par 19 mois de détention, niait les charges retenues contre lui et estimait être devenu le bouc émissaire de ce petit monde des vins rares et chers, a déclaré le juge. Son avocat avait défendu ses actes en assurant qu'il ne le faisait pas pour tromper les gens, il voulait améliorer certains des vins qu'il achetait. Dans son réquisitoire, l'accusation, qui a fait citer une quinzaine de témoins durant le procès, avait décrit un menteur poussé par l'appât du gain, qui avait toujours besoin de plus d'argent. Rudy Carniwan disait avoir une cave magique, mais il n'y avait pas de magie, seulement les mensonges de l'accusé, avait conclu le procureur.
Je n'ai jamais vu New York. J'ai souvent douillé dans ma tête. Je n'ai jamais vu Rio. Qu'un pain de sucre sur des cartes photos. Je n'ai jamais vu Bangkok. Mais sur tes lèvres, il y a des parfums de Chine. Je n'ai jamais vu New York. Je n'ai jamais vu Delhi. Mais j'ai rêvé au plein de crème. Je n'ai jamais vu Bali. Comme une flûte qui hante lointain. Je n'ai jamais vu Jaya. Mais y'a du Sahara dans ton souffle. Je n'ai jamais vu New York.
Retour en 1986 avec Daniel Lavoie, Je voudrais voir New York.
Et on poursuit toujours à propos des vignes cette fois, des chauves-souris pour remplacer les pesticides, de l'agence France Presse à Bordeaux. Les chauves-souris contribuent à lutter contre le ver de la grappe, papillon ravageur de la vigne, et pourraient ainsi devenir une option alternative à certains pesticides, a annoncé mardi la LPO, étude à l'appui. Sur 23 parcelles de vignes étudiées en Gironde, l'étude menée par la LPO Aquitaine, Eliomis et l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, montre que les chauves-souris augmentent leur activité de chasse en présence des ravageurs. Cette observation a été confirmée par des analyses génétiques de leur guano, excrément. Ces résultats attestent donc de façon formelle et pour la première fois la capacité des chauves-souris à se nourrir d'Eudémis et de Cochilis, des papillons ravageurs de la vigne qui, en cas d'infestation, contraignent les viticulteurs à l'emploi d'insecticides, ont indiqué dans un communiqué les trois organismes et le comité interprofessionnel du vin de Bordeaux, le CIVB, qui a financé cette étude réalisée de mai à octobre 2017. Ça a été un peu une surprise. Nous avons trouvé 19 des 22 espèces connues en Gironde. On ne s'attendait pas à ce qu'autant d'espèces de chauves-souris fréquentent la vigne, qui n'était pas jusque-là connue pour sa biodiversité. On n'imaginait pas la vigne comme un milieu attrayant pour les chauves-souris. Par contre, l'activité dans le vignoble est inférieure à d'autres habitats plus naturels comme les haies, a expliqué à l'AFP Johan Charbonnier, chargé de mission scientifique à la LPO Aquitaine. Maintenant qu'il a été prouvé que les chauves-souris contribuent à lutter contre le ver de la grappe, reste à savoir lors d'une prochaine étude s'il est financièrement avantageux pour les viticulteurs de favoriser l'activité de ces chiroptères. Est-ce que les chauves-souris mangent assez de ravageurs pour limiter l'utilisation de pesticides, s'interroge M. Charbonnier. Le ver de la grappe provoque des blessures et des pertes de grains de raisin, les chenilles de la deuxième génération perforant ces grains.
Partons à Los Angeles à présent, où un musée a vu le jour, et pas n'importe quel musée, il s'agit du musée de l'ego portrait, le selfie. Prendre un égoportrait, c'est tout un art. Il faut choisir le bon angle, effacer le bout de bras péniblement tendu pour rendre au mieux l'ovale du visage, lever le menton et surtout sourire. Pas si surprenant donc que cette fièvre de l'autoportrait à l'ère des réseaux sociaux ait désormais son musée à Los Angeles. Curieux d'explorer en s'amusant tendances et origines de ce phénomène, les deux créateurs du musée des égoportraits, Tommy Anton et Ter Mademoff, ont eu l'idée de cette exposition interactive. Les égoportraits ont une histoire étonnamment riche qui remonte à aussi loin que l'humanité crée de l'art, estime Tommy Anton. Statues imitant le célèbre David de Michel-Ange avec un téléphone intelligent rose à la main, trônes fabriqués en perches à égoportraits, mais aussi consignes de sécurité du gouvernement russe diffusées après plusieurs accidents mortels, ou encore l'autoportrait pris par un singe avec l'appareil du photographe David Slater. Avec leur exposition, les fondateurs du musée veulent démontrer que ces égoportraits sont bien plus qu'une simple photo. Rembrandt a fait des centaines d'autoportraits, Albrecht Dürer 5, Van Gogh des dizaines, etc. Quelle est la différence ? Évidemment, la technique artistique et l'échelle, c'est une chose, mais en réalité, si les téléphones portables et les appareils photo avaient existé, tout le monde en aurait pris. Et dans leur musée, inauguré dimanche à Glendale, en banlieue de Los Angeles, l'autoportrait est bien entendu presque obligatoire. À 45 ans, Laurie Nguyen affirme ne pas en prendre souvent. « Je ne suis pas super jeune », avance-t-elle, mais une autre visiteuse, Nina Crow, admet en faire au moins un par jour. Aucune des deux n'a en tout cas voulu rater l'occasion de se tirer le portrait, sur des fonds originaux qui devraient faire réagir leurs amis sur les réseaux sociaux, comme ces ailes d'ange, Angel Wings, de l'artiste Colette Miller, ou l'œuvre de Darrell Carey, qui donne une profondeur vibrante au mur en les saignant d'épais scotch noir, un véritable aimant à selfie, souligne le musée. Ouvert pour 2 mois, le musée des égoportraits pourrait prolonger son existence à Los Angeles si l'occasion se présente, d'après ses fondateurs, qui se disent aussi prêts à faire voyager l'exposition à travers les États-Unis, voire le monde. On y découvre aussi des statistiques liées à cette tendance, comme le fait que les femmes sont plus promptes à se tirer le portrait que les hommes. Ainsi, à Sao Paulo, 65% des égoportraits sont pris par des femmes et 61% à New York. Un pourcentage qui explose à Moscou avec 82%. Il n'y a pas de statistiques concernant Los Angeles, mais Ali Bertic, une autre visiteuse, admet être accro. C'est l'occasion de dire aux gens « Coucou, je suis à cet endroit et peut-être que vous devriez y aller aussi. C'est juste une façon amusante de dire ce que je fais, de montrer aux gens où je suis », explique-t-elle. Ça montre mon bon côté.
La Suisse à la conquête du Canada. Après avoir enregistré en 2017 une année record en ce qui concerne le nombre de voyageurs canadiens, la Suisse souhaite poursuivre sur cette lancée et veut courtiser les Canadiens, et particulièrement les Québécois. C'est du moins ce qu'a affirmé cette semaine le directeur pour le Canada de Suisse Tourisme, Pascal Prince. L'an dernier, en vertu des chiffres compilés par les hôteliers suisses, les Canadiens ont passé 247 764 nuitées dans les établissements du pays, une hausse de 9,1% par rapport à 2016. Les visiteurs québécois représentent 35% de tous les vacanciers canadiens en Suisse. Devant cet engouement, M. Prince multiplie les efforts dans la belle province en rencontrant les agences de voyage, en participant à de nombreuses conférences et en mettant sur pied des campagnes promotionnelles. C'était Nathael Morissette. De la presse.
Avez-vous quelques millions de dollars à investir? Si oui, j'ai une bonne idée pour vous. Un tableau de Picasso, considéré comme un rare autoportrait du peintre à une époque où il craignait d'être déporté par les nazis, va être mis aux enchères à New York par Christie's, qui estime qu'il pourrait atteindre 70 millions de dollars. Cette huile sur toile de 130 sur 81 cm, intitulée Le Marin, montre un homme au regard triste, vêtu d'un maillot à rayures et assis sur une chaise. Elle est exposée à Hong Kong jusqu'au 3 avril, avant de partir pour Londres puis New York, où elle sera mise aux enchères le 15 mai. À vos chéquiers donc. Ce qui conclut cette nouvelle émission des Voix de Service, les remerciements. Merci à vous Jean-Charles Algan pour vos sujets.
Merci Louis de Bernis.
Intéressant comme d'habitude. Remerciements également à Jean-Sébastien Laliberté pour les choix musicaux pertinents comme toujours et la mise en onde. Nous vous saluons bien. Tout de suite après, retrouver Hélène Denis avec le quotidien des quotidiens. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Nous serons là, même heure, mardi.
Absolument.
Bonne semaine.
À la semaine prochaine.